Bonjour Emmanuel Laurentin, bonjour à tous, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. Hey, you know what? Diffusés tous les jours, du lundi au vendredi de 10h à 11h, les nouveaux chemins de la connaissance sont réalisés cette semaine par Bertrand Chaumeton avec Bruno Nievdanski à la technique et préparés avec amour et abnégation par Geneviève Méric, Avril Ventura, Camille Lugan, Mathilde Unger, Adèle Van Rett. Adèle, justement, qui vous donne rendez-vous à 10h50 pour le journal des Nouveaux Chemins, en compagnie aujourd'hui de Maxime Rovert et pour vous parler de Spinoza. Et c'est la suite, ce jeudi, d'une semaine sur l'enfance dans les nouveaux chemins de la connaissance. Une semaine intitulée à bon droit « L'art de l'enfance ». Après le cinéma, après Romain Gary et l'amour maternel, c'est de Françoise Dolto qu'il sera question aujourd'hui, en compagnie de Sylviane Giampino, psychanalyste et psychologue, spécialiste de la petite enfance et auteur notamment de « Nos enfants sous haute surveillance » paru chez Albin Michel.
Ce que je voudrais, c'est faire comprendre aux parents qu'ils ont les éléments pour résoudre leurs problèmes. D'ailleurs, une des mamans nous l'a dit. Mais ceux qui ne les ont pas, les éléments, ou qui croient ne pas les avoir, j'essaye de les éclairer. Parce que maintenant, on voit tous les parents ont des livres entre eux et leurs enfants. Et je voudrais que la vie revienne telle qu'elle est entre parents et enfants. Il s'agit de rendre un peu de bon sens dans la relation parent-enfant. C'est surtout ça que je voudrais.
Bonjour Sylviane Giampino.
Bonjour.
Bonjour, bienvenue sur France Culture, bienvenue sur les nouveaux chemins de la connaissance. C'est émouvant, non, d'entendre la voix de Françoise Dolto?
Oui, c'est émouvant et c'est d'autant plus intéressant de l'entendre dire qu'elle veut proposer un éclairement aux familles. Et lorsqu'elle dit qu'elle retrouve le bon sens dans la bouche de Françoise Dolto, le mot de sens a un caractère tout à fait précis.
Oui, alors justement, qu'est-ce qui distingue chez Françoise Dolto le bon sens? Enfin, qu'est-ce qu'elle entend par bon sens? Quelle est la différence entre le bon sens au sens où elle l'entend, du bon sens aux masses dont on fait des gorges chaudes au quotidien, quand on dit de quelqu'un qu'il est tout simplement de bon sens?
Bien, peut-être que Françoise Dolto avait ce génie de la compréhension de ce qui n'est pas dit et de ce qui n'est pas montré, et qui pourtant fait qu'un être se bat ou se débat pour grandir et vivre avec les autres.
Tout est langage. Et le langage en parole est ce qu'il y a de plus germinant, de plus inséminant dans le cœur et dans la symbolique de l'être humain qui naît. Pour se développer dans un corps, homme ou femme, il ne peut le faire que s'il est en relation avec une voix d'homme ou de femme, avec une autre voix associée à celle de sa mère. Sylviane Giampino, je vous ai demandé s'il était émouvant d'entendre la voix de Françoise Dolto et vous m'avez répondu qu'il était émouvant d'entendre ce qu'elle disait. Quelle est la place que Françoise Dolto accorde, puisqu'on va parler de ce qu'elle dit du langage justement, quelle place faut-il faire à la voix dans la transmission, aux inflexions de la voix dans la transmission d'un message, et quelle place faut-il faire au contenu du message? Puisque si, selon Françoise Dolto, il faut parler aux enfants, quand bien même ils n'ont pas eux-mêmes accès au langage, il faut quand même leur parler, que leur dit-on, que leur transmet-on, en employant des mots qu'ils ne connaissent pas?
Bien, chez Françoise Dolto, la parole, ce n'est pas des mots, justement, ce n'est pas que les mots. Et ça n'est pas non plus que la voix au sens d'une musique, d'une mélopée. Pour Françoise Dolto, le langage est corps et le sujet prend corps grâce au langage, au sens où un être humain s'adresse à l'enfant en tant qu'être humain, dès sa conception, conçu comme tel. Et il ne s'agit pas d'informer l'enfant, de lui dire ce qu'il va faire, avec qui, comment, etc. Il ne faut pas confondre parler aux enfants, tel que Françoise Dolto l'entendait, et cette sorte de bain de langage qui serait une stimulation à la communication, qui serait plutôt de rigueur aujourd'hui.
C'est-à-dire qu'il y a deux façons d'utiliser le langage, soit une façon de dire, ben voilà, je lui mets des mots dans la tête, comme ça il se sentira plus familier avec ces mots quand il s'agira de les apprendre et de s'y retrouver. Et il y a aussi une façon de dire, en lui disant ce que je veux lui dire, la façon dont je le lui dis est en soi déjà une façon de transmettre quelque chose.
Oui,
je voudrais comprendre, hein. Allez-y.
Oui, parce que les enfants sont réceptifs à l'état dans lequel se trouve celui qui s'adresse à eux, à lui, à l'enfant, dans sa singularité. Françoise Dolto disait que les enfants ont toujours, un enfant a toujours l'intuition de son histoire. Et elle avait une conception du bébé comme au plus près d'une sorte de vérité, une sorte d'intuition préinscrite du vrai, de par exemple sa filiation, son appartenance à un genre ou à un autre, ce qui fait qu'il était arrivé à naître dans cette famille-là, de ses parents-là, par exemple.
Oui, elle va très loin. Elle va même jusqu'à dire qu'un enfant pour naître doit en avoir le désir.
Oui, elle va jusqu'à proposer une conception profonde, à savoir que quelque chose du sujet humain est d'emblée là et va s'incarner dans cet enfant-là, de ses parents-là.
Mais est-ce à dire, encore une fois, hein, sur la différence qu'il faut faire entre le son de voix, par exemple, on peut dire quelque chose d'extrêmement aimable ou gentil à un enfant et le dire sur un ton agressif. Je parle ici d'un nourrisson presque. Et le lui dire sur un ton agressif, c'est le ton qu'il retiendra. Est-ce qu'au fond, il ne s'agit pas de dire ce qui est à l'enfant, tout simplement parce que c'est encore la meilleure façon d'adopter le ton, les sonorités, de lui transmettre les impressions qui conviennent à ce qu'on dit, et faute de sens, ou à défaut de sens en tout cas, lui transmettre la bonne impression. Cette question est celle d'un profane, mais qui voudrait comprendre.
Oui, mais je trouve que votre question est teintée de doute.
Oui.
D'un doute sur le fait que l'enfant saisirait le sens même de ce qui lui est dit à travers les mots. Or, nous constatons dans la clinique vraiment quotidienne avec des enfants, des tout-petits, que lorsque nous parlons par exemple à un enfant du fait que, eh bien voilà, sa mère est désemparée, ne peut pas pour l'instant le prendre dans ses bras bien qu'il vient de naître parce qu'elle ne s'attendait pas du tout à avoir un petit bébé tel que lui, avec tel défaut, telle malformation par exemple, ou bien parce qu'il est né fille et qu'elle s'était représenté un garçon. Lui parler de cela fait qu'un nourrisson qui par exemple ne pouvait pas téter peut se remettre à manger. Alors, voilà, vous me demandez de vous expliquer par où, logiquement et scientifiquement, ça passe. La recherche aujourd'hui fait de gros progrès et elle nous a permis quand même de démontrer des hypothèses.
Et puis, en somme, à vrai dire, peu importe l'étiologie, en l'occurrence la recherche des causes, ce qui compte ici, c'est de constater les effets. Si effectivement on a le sentiment qu'un enfant entend ce qui lui est dit, dans ces conditions, c'est une façon de justifier, mais empiriquement, la méthode que propose Françoise Dolto. Sylviane Jeanpinot, Françoise Dolto, d'une certaine manière, est avec nous en studio, puisqu'on s'est beaucoup servi pour préparer cette émission des entretiens qu'elle avait donnés à Jacques Pradel à la fin des années 70. Et on va entendre, justement, hein, pour aller dans votre sens, dans le sens de ce que vous dites, ce que Françoise Dolto peut dire, par exemple, de l'éducation sexuelle de l'enfant. Écoutez.
On va prendre une autre lettre, Françoise Dolto, au tout à fait autre sujet. C'est l'éducation sexuelle des enfants, vous en avez souvent parlé.
Combien de fois ?
Et une auditrice donc vous écrit en disant d'ailleurs qu'elle vous écoute autant qu'il lui est possible de le faire, et elle vous remercie de ses enseignements. Elle dit, je vous remercie de faire prendre conscience aux mères du rôle important qu'elles jouent dans la vie de leurs enfants. Alors, dit-elle, il y a une question de ma fille, âgée de 6 ans, à laquelle j'hésite fort à répondre. Alors, elle sait que la fameuse petite graine dont vous parlez était dans les testicules de son père et qu'ensuite cette graine a poussé dans le ventre de sa mère pour donner naissance à un bébé. Il est très logique, dit la mère, qu'elle en vienne à se demander par quel moyen cette graine a pu passer du père à la mère. Et elle termine sa lettre en disant « Moi, j'hésite à lui répondre franchement, de peur de la choquer un peu. » Alors, elle sait d'autre part comment la naissance s'effectue. Est-ce que je dois directement lui faire comprendre comment cette graine, donc en question, dont elle parle, passe de l'un à l'autre?
Bon, si la petite pose cette question à sa mère, la première façon de répondre à une question à un enfant, c'est de lui demander que ce que tu crois, comment crois-tu? Et l'enfant répond parfois à des choses absurdes. L'enfant répond « oui, c'est par l'oreille, oui, c'est n'importe où, dans le nombril ». Et la mère, de s'esclaffer, de dire « non, c'est pas comme ça », eh ben réfléchis, puis tu me diras « quand tu auras trouvé, je te dirai oui ». Et puis, si l'enfant dira oh, « ben non, je ne trouve pas », enfin, ça doit se passer comme ça en jeu, oui. Et dire « non, dis-moi, eh bien, je vais te le dire, ça s'appelle l'union sexuelle ». Voilà comment il faut répondre à un enfant. Et chose curieuse, ça suffira à cet enfant. Parce que 6 ans, à mon avis, elle le sait déjà. Étant donné qu'à la maternelle, les enfants en parlent en faisant le geste des enfants. À la maternelle, c'est le pouce entre le poing serré de l'autre main ou l'index. Les enfants le disent, mais elle voudrait avoir un mot de sa mère, du vocabulaire. Or, le vocabulaire, le vrai vocabulaire, c'est de dire l'union sexuelle.
Sylviane Giampino, trois choses peut-être qu'on peut tirer pour commenter un peu cette phrase, enfin cette parole de Françoise Dolto. D'abord, il faut tout dire à l'enfant. Qu'est-ce que ça veut dire, ça, qu'il faut tout dire à l'enfant? Deuxièmement, la méthode. Alors, l'enfant a 6 ans, en l'occurrence. Il s'agit d'une certaine façon d'une maïeutique. On fait accoucher l'enfant de cette parole. C'est une maïeutique qui doit se faire sous la forme d'un jeu. Et puis alors, l'ultime parole, l'union sexuelle. Alors, en quoi cette expression, qui est à la fois, j'allais dire, austère, scientifique, un peu terne, pour désigner ce qui manifestement excite ou inquiète l'enfant, l'expression d'union sexuelle est, selon Françoise Dolto, de nature à apaiser cette inquiétude. Et puis, le fait que les enfants sachent tout, il faudrait s'interroger peut-être sur cette omniscience de l'enfance et le fait que finalement les enfants ne font que redécouvrir ce qu'ils savent déjà, ce qui justifierait d'ailleurs la maïeutique. Hein. Sylviane Giampino.
Oui. Vous savez, il faut tout dire à l'enfant. C'est vraiment l'un des grands malentendus de l'apport de Françoise Dolto. Françoise Dolto ne disait pas cela. Elle disait il faut parler vrai aux enfants, en réponse à leurs questions, énoncer ou bien non énoncer. Et elle disait aussi que certains symptômes des enfants étaient des questions qu'ils posaient et sur lesquelles ils demandaient une réponse langagée. Sur cette question de qu'est-ce qu'on dit à un enfant, c'est très important cette maïeutique, car au fond, Françoise Dolto, dans l'extrait précédent, elle le disait pour les parents, mais elle le pense aussi pour les enfants, considérait que chacun porte en lui un savoir pour répondre aux questions que lui-même se pose, mais ce savoir est insu. Et qu'on a tout à gagner à faire émerger pour chacun de nous le savoir que l'on porte en soi, qui est quand même le plus garanti pour répondre aux questions que nous nous posons.
En somme, le travail clinique correspond au travail socratique, où il s'agit d'accoucher d'un savoir dont nous disposons déjà, qui est déjà là.
Qui est là dans l'enfant, et surtout faire parler à l'enfant de sa question et de ce qu'il répondrait lui-même à sa question permet de savoir où il en est lui. De cette question, les questions sur la sexualité poursuivent un parcours dans le développement de l'enfant. La question qu'il se pose à 2 ans et demi ne sera pas en même terme qu'à 4 ans, à 6 ans ou à 10 ans. Et on ne peut aider un enfant à résoudre cette énigme profondément humaine, qui d'ailleurs, vous le savez, accompagne la vie des hommes et des femmes bien plus longtemps qu'après l'enfance, s'il ne va pas chercher à l'intérieur de lui aussi le moyen d'articuler sa question. Mais elle ne renonce pas pour autant à proposer une réponse à l'enfant. C'est très fin, elle dit que l'enfant a besoin du vocabulaire de sa mère. Autrement dit, il ne s'agit pas de copier les mots proposés par Dolto. Elle propose, elle, l'union sexuelle. Mais pour une mère ou un père, si ce terme-là est inadapté à rendre compte de la façon dont lui-même parlerait de la chose, alors il faut que les parents s'autorisent à utiliser leurs propres mots. Et ce qui fait réponse pour l'enfant...
Mais est-ce les mots des parents qu'il faut utiliser ou les mots de l'enfant? Si on dit verge à un enfant ou si on lui dit zizi, on ne lui dit pas exactement la même chose.
On ne lui dit pas exactement la même chose, mais un père qui ne sera pas à l'aise avec le mot verge va le prononcer d'une façon telle que l'enfant ne pourra pas prendre appui sur cette parole pour qu'elle soit source de réassurance.
Alors il faut revenir sur un certain nombre d'idées reçues sur Françoise Dolto, qui sont en général les idées reçues brandies par ceux qui ne l'ont pas lue et qui s'en tiennent justement donc à ce qu'ils croient savoir. L'un des reproches qu'on a fait à Françoise Dolto et à son enseignement, c'était d'avoir constitué un enfant roi. Qu'au fond d'avoir sanctifié la personne de l'enfant au point de alors s'indigner de toute forme d'autorité. Je parle ici de l'idée reçue qu'on peut avoir à son sujet, hein. Refuser toute forme d'autorité, sanctifier sa parole, l'écouter absolument et finalement fabriquer des enfants gâtés. Qu'en est-il, Sylviane Giampino?
Écoutez, l'enfant roi, il a été conçu plus par la société de consommation et par la modernité qui a accordé une plus grande place à l'avoir qu'à l'être, qu'aux apports de Françoise Dolto. L'un des apports majeurs de Françoise Dolto, c'est ce qu'elle a conçu dans L'image inconsciente du corps, qui est un livre un peu difficile, donc certaines personnes, bien sûr, ne l'ont pas lu.
Les mêmes qui en parlent, allez-y.
Mais oui, elle y montre quelque chose qui est fondateur pour elle, à savoir que l'enfant grandit parce qu'il rencontre sur le chemin de son besoin un obstacle qui va l'obliger à utiliser un circuit long pour ne pas trouver satisfaction à ses désirs et à ses besoins, et que ces frustrations qui jalonnent son chemin peuvent être des frustrations maturantes, qu'elles sont nécessaires. C'est ce qu'elle appelle, elle, les castrations symboligènes. Et on est loin, là, de l'enfant roi, qui serait l'enfant gâté et qu'il faut satisfaire.
Alors, voilà pour l'idée reçue. Autre idée reçue, sur Françoise Dolto, l'idée que finalement Françoise Dolto est une folle qui parle au bébé, hein, c'était l'expression qu'employaient ses détracteurs, hein, c'est la folle qui parle au bébé. Françoise Dolto, la folle qui parle au bébé, aurait en un sens abjuré toute forme de théorie au profit d'une pratique finalement immanente et qu'en somme toute sa méthode reposerait uniquement sur la pratique et qu'au fond le corpus théorique serait de peu de choses pour elle. Alors qu'en est-il là encore? Quel rapport, et ça c'est une question évidemment qu'on peut poser en toute psychanalyse, qu'en est-il du rapport de Françoise Dolto à ce qu'elle sait, à la science, et je mets le mot entre guillemets à dessein, à la science psychanalytique, sur quoi ne cède-t-elle pas? Sur quel principe, au fond, ne cède-t-elle pas?
Françoise Dolto était une théoricienne. Elle a participé à toutes les avancées de la psychanalyse en France. Elle a travaillé avec les plus grands et son compagnonnage avec Jacques Lacan...
Dont elle ne comprenait pas tout, mais dont, disait-il, elle appliquait ce qu'il disait sans le comprendre.
Oui, mais Françoise Dolto, elle est aussi théoricienne. Psychanalyse et pédiatrie, sa thèse... est un apport théorique fondamental. L'image inconsciente du corps également, ce qu'elle a travaillé sur la sexualité féminine également. Ça n'est pas aussi facile d'accès que d'autres ouvrages dans lesquels elle a fait l'effort de transmettre pour les professionnels de l'enfance, pour les parents, les apports de la psychanalyse, pour les éclairer, Hein, c'était vraiment la transmission de la psychanalyse à des non-psychanalystes était une vraie vocation chez elle, qui venait de sa vocation d'ailleurs de jeune fille quand elle disait qu'elle voulait être médecin d'éducation. Hein. Mais la théoricienne est là, simplement une théorie, on y accède avec du travail et tout le monde, du fait qu'on entendait Françoise Dolto sur les ondes et qu'on peut lire certains ouvrages plus accessibles, tout le monde n'a pas pris la peine d'aller aussi travailler les apports théoriques de Françoise Dolto.
Alors, il y a des apports théoriques, il y a aussi des principes sur lesquels on ne revient pas, notamment le complexe d'Œdipe. Et voici ce qu'elle répond à des parents qui constate ou croit constater que le problème, entre guillemets, du complexe d'Œdipe ne se pose pas chez eux. Écoutez.
Le complexe d'Œdipe est un moment du développement qui est tout à fait inconscient. Et il est très possible que les parents n'aient pas observé ce qui se passait. Mais ça m'étonnerait beaucoup que cet enfant n'ait pas passé par une période de rivalité vis-à-vis de son père, et qu'il puisse se développer en ayant des camarades garçons, défendre une petite amie d'un rival, se défendre quand des camarades veulent lui prendre un autre camarade, que ce soit un garçon ou une fille, et en même temps qu'il ait à la fois une affection élective pour une petite fille et en même temps beaucoup d'affection facile, aussi bien avec les garçons qu'avec les filles. C'est difficile. Maintenant, pour un enfant unique, ça peut passer inaperçu. Ça ne veut pas dire qu'il n'ait pas fait d'Œdipe. Parce que le complexe d'Œdipe est une généralité. Personne ne peut y échapper, vraiment. Personne ne peut y échapper. Mais ça laisse des traces dans l'inconscient, dans les rêves. Et bravo si cet enfant en est sorti d'une façon aussi facile. Il faut que beaucoup de parents le sachent. Chez les enfants uniques, c'est rare. C'est pour ça que ça m'étonne, parce qu'il est un enfant unique. Maintenant, peut-être avait-il des grands-parents, un couple de grand-père et grand-mère, des oncles et tantes, et que ce n'a pas été tellement marqué la rivalité qu'il avait sur le père, parce qu'il avait par ailleurs possibilité d'être agressif avec des garçons aînés autour de lui, ou bien de prendre pour lui une affection de la grand-mère en évinçant le grand-père, des trucs comme ça. Parce que la différence sexuelle des adultes fait que l'enfant ne peut pas montrer le même style d'affection pour ses deux parents. Il y a une affection sexuée pour les deux parents, qui est une affection rivale et aimante vis-à-vis du père, et une affection possessive et un peu malheureuse quand le père évince son fils parce qu'il a besoin d'être seul avec sa femme.
La situation mérite attention. Mon enfant, on n'épouse jamais ses parents. Vous aimez votre père, je comprends. Quelles que soient vos raisons, quels que soient pour lui vos sentiments, mon enfant, on n'épouse pas plus sa maman. On dit que traditionnellement, des questions de culture et de législature décidèrent en leur temps qu'on ne mariait pas les filles avec leur papa.
Sylviane Giampino est l'invitée des Nouveaux Chemins de la Connaissance dans une semaine sur l'enfance. C'est de Françoise Dolto que nous parlons aujourd'hui. Et c'est évidemment Peau d'âne qu'on donne à entendre, comme à chaque semaine d'ailleurs, sur la psychanalyse.
À la terre, mon enfant, il vous faut oublier à présent ces fantasmes démoralisants. Et vous rencontrerez un charmant vanipier ou un prince mendiant. Mais de grâce oubliez cet hymen insensé, mon enfant.
Sylviane Giampino, mardi dernier, on parlait de Romain Gary dans Les Nouveaux Chemins de la Connaissance, et en particulier de La Promesse de l'Aube. Et dans La promesse de l'aube, il y a un passage, je regrette de ne pas l'avoir cité ce jour-là, il y a un passage tout à fait étonnant qui revient sur la psychanalyse. Donc c'est un roman d'amour absolu d'un enfant pour sa mère. Romain Gary éprouve le besoin de préciser à un moment ceci et il dit, et je voudrais avoir votre sentiment sur ce texte. « Je n'ai jamais eu pour ma mère de penchant incestueux. » Je sais que ce refus de regarder les choses en face fera immédiatement sourire les avertis et que nul ne peut se porter garant de son subconscient. Je m'empresse aussi d'ajouter que même le béotien que je suis s'incline respectueusement devant le complexe d'Œdipe, dont la découverte et l'illustration honorent l'Occident et constituent certainement, avec le pétrole du Sahara, une des explorations les plus fécondes des richesses naturelles de notre sous-sol. Je dirais plus, conscient de mes origines quelque peu asiatiques et pour me montrer digne de la communauté occidentale évoluée qui m'avait si généreusement accueilli, je me suis fréquemment efforcé d'évoquer l'image de ma mère sous un angle libidineux afin de libérer mon complexe dont je ne me permettais pas de douter, l'exposer à la pleine lumière culturelle et d'une manière générale prouver que je n'avais pas froid aux yeux et que lorsqu'il s'agissait de tenir son rang parmi nos éclaireurs spirituels, la civilisation atlantique pouvait compter sur moi jusqu'au bout. Ce fut sans succès. Qu'en pensez-vous, Sylviane Giampino, hormis le fait que c'est très très bien écrit?
Mais écoutez, nous avons là la démonstration du fait que le complexe d'Œdipe, c'est un phénomène inconscient. Et que...
En gros, soit on l'éprouve, on l'admet, soit on le refoule.
Mais c'est fait pour être refoulé. Et heureusement que Romain Gary, à l'âge où il écrivait ce texte, ne retrouvait pas les émois du petit garçon de 3 ans pour sa maman. C'est ce refoulement qui est structurant. Maintenant, on entendait tout à l'heure Françoise Dolto parler de la façon dont, des façons par lesquelles le complexe d'Œdipe peut se construire et se réguler. Elle parlait par exemple d'un Œdipe diffracté qui pouvait se diluer sur plusieurs personnes.
Mais est-ce que ça, ce ne sont pas des modifications ad hoc qui viendraient justifier finalement la permanence d'un complexe, récusant à l'avance toute forme d'exception? Est-ce qu'en somme, ce n'est pas un dogme, le complexe d'Œdipe?
Vous savez, le débat sur l'universalité du complexe d'Œdipe est, je pense, moins un débat psychanalytique qu'un débat anthropologique et philosophique. Et je ne suis pas sûre que je sois la personne la plus compétente pour le mener ici de nous deux.
Non, mais en même temps, il s'agit de savoir effectivement qui est... il ne s'agit pas d'être philosophe ou psychanalyste ici. Il s'agit de savoir si effectivement chacun, à sa façon, souffre, et je mets le mot entre guillemets, du complexe d'Œdipe, ou si c'est une décision préalable, un principe antéposé et qui finalement exclurait toute forme de contradiction. Françoise Dolto, ici, quand elle répond aux parents qui envoient cette lettre, dit que, en somme, s'il ne voit pas le complexe d'Œdipe, c'est que le complexe d'Œdipe se cache. Ce qui est, pour le coup, pourrait être vu, c'était l'argument de Karl Popper pour dire que la psychanalyse pouvait être dogmatique, justement. Ce qui était une façon de dire, ben voilà, vous n'avez pas le choix, ensemble.
Vous savez, le complexe d'Œdipe, il recouvre tout un parcours développemental au niveau du fantasme chez l'enfant. Et à l'origine de ce parcours, il y a la découverte que l'enfant se découvre petit garçon ou petite fille, par exemple. Ça, c'est quelque chose qu'il doit encaisser, car il doit admettre le fait qu'il n'est NAIT ou qu'il n'est que NEST, que un garçon ou que une fille. Et dans un second temps, il va falloir qu'il accepte que c'est irrémédiable. Il a besoin, pour encaisser vraiment cette réalité biologique, d'en construire une symbolique. Et il va appeler à l'aide son père et sa mère pour ça, ou d'autres personnes, d'autres adultes tutélaires, qui vont lui tenir la main dans cette réalisation de lui en devenir homme ou femme parce qu'il est garçon ou fille, parce qu'ils sont eux-mêmes déjà plus loin dans le chemin et qu'ils vont être reconnus par l'enfant comme étant un homme, une femme. Alors, tout ceci n'est pas un parcours cognitif et intellectuel chez l'enfant. Il y a de l'amour, il y a de l'investissement. Et dans le même temps, l'enfant développe dans son corps de la puissance, des sensations, des découvertes, qu'il est fort, qu'il est beau, qu'elle est belle, qu'ils sont... Voilà. Tout ceci, ensemble, va construire une sorte de rhizome de liens qui permettront d'accéder à une consolation d'être un garçon ou d'être une fille, parce qu'un jour on sera une femme ou un homme grâce au fait que si je suis garçon et que mon père aime une femme, alors je pourrais moi aussi être aimée d'une femme, et ça, ça vaut le coup. Il y a dans... Ça dépend de ce qu'on pense être le complexe d'Œdipe. Je crois que la version princeps freudienne n'était qu'un point de départ de la pensée. Aujourd'hui, dans l'accompagnement des très jeunes enfants, au jour le jour, lorsqu'on les voit grandir et en passer par toutes ces étapes, on voit bien qu'il s'agit d'autre chose que de cette histoire de se marier avec papa ou avec maman.
Les enfants sont très fiers du corps de leurs parents. Et leurs parents sont toujours parfaits dans leur nudité, comme partout ailleurs. Mais il y a des périodes dans la vie de l'enfant où il ne voit rien, d'abord. C'est quand il est petit. Il ne voit pas les organes sexuels jusqu'au moment où il s'aperçoit de la différence sexuelle. Et c'est à partir du moment où il s'aperçoit de la différence sexuelle, pas seulement sexuelle, de la différence de toutes les formes, parce que les adultes doivent savoir, par exemple, qu'un enfant de 18 mois, 2 ans, 2 ans et demi, quand vous revenez avec un petit paquet de 20 cm sur 4, il dit « Oh, tu m'as apporté le gros camion que je voulais avoir ». Les enfants n'ont pas du tout le sens du volume et de la différence jusqu'au moment où ils s'aperçoivent des différences. C'est un moment très important puisque c'est le moment structurant de la réalité pour l'enfant. L'imaginaire et la réalité sont différents. Et à ce moment-là, la différence de volume et donc pour l'enfant de beauté, puisque le grand est mieux que le petit, entre le corps et le sexe du père et de la mère dans sa nudité par rapport au corps et au sexe de l'enfant dans sa nudité, lui fait se sentir très inférieur aux adultes, alors qu'il est déjà à ce moment-là capable d'une parole aussi bien formulée que celle des adultes. Mais il n'est vraiment pas capable de valoir autant sur le plan sexuel et sur le plan corporel que ce merveilleux papa, cette merveilleuse maman. Quant aux adultes qui, sur les plages, se dénudent, eh bien, c'est du social et je crois que cela n'intéresse ni plus ni moins les enfants que tout ce qu'ils découvrent dans le monde. Et qu'ils sachent que ses parents sont bâtis comme ils voient ces adultes être bâtis, pourquoi pas ?
Sylviane Giampino, quand Françoise Dolto parle de la nudité de ses parents, enfin de la nudité des parents, qui sont également les siens, d'une certaine manière, quand elle envisage cette possibilité, quand elle parle de cela, elle l'envisage sous l'angle de la beauté, de la découverte d'une différence, également de la splendeur spontanément associée par l'enfant au volume. Donc elle le décrit de cette façon. Et elle va jusqu'à dire d'ailleurs que sur une plage de naturistes par exemple, c'est un fait social qui en soi n'a aucune gravité, que mettre un enfant au milieu d'une plage de naturistes est un fait social et que finalement ça participe d'une découverte qui suscite en lui la même curiosité qu'autre chose. Est-ce qu'elle ne va pas un peu loin, si j'ose dire, dans ce registre ? Est-ce qu'elle ne tombe pas à ce moment-là sous le coup d'un reproche légitime qui serait par exemple de dire que, eh bien, en somme, la nudité des parents, sans être tabou, ne concerne pas l'enfant, d'une part, et deuxièmement, que sur une plage de naturistes, un enfant est en général au milieu d'adultes nus en arrivant. Enfin, l'enfant qui se trouve au milieu d'adultes nus est un enfant qui leur arrive bien souvent à la taille. Sylviane Giampino.
On voit là deux choses dans la... dans la pensée de Françoise Dolto. La première, c'est qu'elle est profondément attachée à la notion de stade. Et que pour elle, l'enfant est un être en devenir, même si le sujet est déjà là. Et donc on navigue toujours entre ces deux ces deux dynamiques.
On retrouve l'idée d'une maïeutique ici. Absolument. Il s'agit pour l'enfant d'accoucher de lui-même dans son développement. Oui.
Bien sûr. Et ce qu'elle dit, c'est qu'il y a un certain âge où l'enfant n'a pas encore la notion de volume, par exemple, et que tout ce qui est grand est beau. Elle fait donc là référence à un enfant tout petit. Elle ne répondrait pas la même chose si on lui avait demandé de préciser sa réponse pour un enfant qui a dépassé l'âge de 5 ans, 6 ans. Elle avait vraiment une clarté quant au développement des enfants. Et alors, le deuxième point...
Est-ce que, juste pour préciser là-dessus, sur ce point-là, ça veut dire qu'on ne peut pas, comme on a tenté de le faire, enfermer Dolto, la chrétienne Dolto, dans la caserne libertaire, l'enrôler dans la caserne libertaire, en un sens. Elle n'était pas de ce côté-là des choses.
Non, pas du tout. Et alors, avec Françoise Dolto, le problème, c'est que tous ceux qui veulent la caser ont bien du mal, car on ne peut ni la caser dans la caserne libertaire, comme vous dites, ni la caser dans la caserne moralisatrice. Car lorsqu'elle dit que sur une plage de nudistes, c'est autre chose, ce qu'elle signifie, c'est que l'enfant doit être entouré d'adultes qui sont chastes. Et que si des adultes sur une plage, si c'est pris dans un contexte socialisé et de chasteté du rapport à l'enfant, à savoir dans un respect de l'enfant, que l'on ne va pas érotiser corporellement, eh bien, à ce moment-là, on n'aura pas la même réponse de Françoise Dolto. Ça, c'est très important de savoir qu'elle n'est pas dans une éducation moralisatrice, mais que par contre, elle invitait les parents, aussi dans d'autres travaux, à fermer la porte de la salle de bain, fermer la porte de la chambre à coucher, à voiler leur nudité quand les enfants commençaient à grandir et commençaient à être troublés autrement parce que le corps des parents, à ce moment-là, les mettait plus en émoi que lorsqu'ils sont tout petits. Dans cette découverte.
On comprend, à vous entendre, à quel point tout cela est extrêmement subtil. Obéit à la fois à des mécanismes extraordinairement subtils et surtout obéit à une expérience qui doit être renouvelée selon chaque enfant. C'est-à-dire que ce que Françoise Dolto édicte comme règle, ce sont presque des normes, j'allais dire, qui se modifient avec chaque cas. C'est presque chaque enfant, au sens où chaque enfant ferait jurisprudence dans le système, si j'ose dire, de Françoise Dolto.
Mais absolument. C'est pour ça qu'il n'y a pas d'école Françoise Dolto, c'est pour ça qu'il n'y a pas de pédagogie Françoise Dolto.
Il y a les maisons vertes.
Ah mais ça c'est autre chose.
C'est elle qui l'a inventée.
Elle a inventé la maison verte, mais justement, pour permettre aux enfants, tout petits, en compagnie de leurs parents, de s'ouvrir sur le monde, d'aller à la découverte des autres. Car pour Françoise Dolto, l'être humain se construit avec l'autre et les autres, toujours à toute étape du développement de l'enfant.
Quel usage Françoise Dolto faisait-elle de son christianisme, Sylviane Giampino? Puisqu'on pourrait, alors là encore, restons dans les lieux communs, opposer de manière frontale, si j'ose dire, les dogmes qui sont ceux, par exemple, de la religion catholique, ou les interdits, ou les tabous, cette machinerie à tabous que constitue tout système religieux, d'une certaine façon, et de l'autre côté, la liberté sereine, savante, érudite et attentive dont elle fait preuve pour dire ce qu'il faut dire, justement, et pour briser les tabous. Alors, comment conciliait-elle sa croyance très profonde, et son discours, sa façon de faire.
Parce que Françoise Dolto était plus concernée par la dimension spirituelle de la religion. Et qu'elle était...
Elle disait que Jésus était une affaire de désir.
Mais oui. Et qu'elle était... si Françoise Dolto a une foi, je crois qu'elle a surtout une foi en le sujet humain. Et le désir humain. C'est extraordinaire, Françoise Dolto a traqué la culpabilité dans toute sa démarche. Or, la religion est porteuse de culpabilité, elle n'était pas du tout là-dedans. Françoise Dolto, elle avait aussi une grande ouverture à d'autres religions que la religion chrétienne. Donc, Elle articulait cela, par exemple, elle avait une lecture de la vie de Jésus-Christ qui, peut-être qu'on dira que je pousse un peu, mais Françoise Dolto, il semblerait que pour elle, Jésus-Christ était une sorte de psychanalyste, de premier psychanalyste.
C'est vous qui l'avez dit et c'est peut-être elle qui le pensait, Sylviane Jampineau. On va rester justement dans le registre de la culpabilité et d'un problème qui concerne tout le monde, y compris et peut-être surtout d'ailleurs les séminaristes. Écoutez Françoise Dolto parler de masturbation.
Je crois qu'il faut répondre à toutes ces lettres qui arrivent. C'est un thème qui n'a pas encore été abordé ou qui a été abordé, mais un petit peu comme cela, au cours d'autres séquences. C'est le thème de la masturbation des enfants. Je crois que dans ce courrier que vous avez lu, les parents s'interrogent sur ce problème qui les inquiète quelquefois et dont ils n'osent souvent pas parler.
Oui, c'est assez curieux d'ailleurs dans ces lettres. Ou bien les parents s'en inquiètent et même s'en surinquiètent et à pas de loup vont guetter les enfants pour savoir s'ils se masturbent. Et d'autres, au contraire, les parents dénient complètement, c'est pas possible. Un des parents le dit et l'autre dit ce n'est pas vrai. Et bon, il faut savoir que la masturbation infantile est un moyen qu'a l'enfant pour se distraire, non pas par le fait même de la masturbation, mais par le fait que la masturbation s'accompagne d'imagination, de rencontres jouissives, de communication avec des gens qui ne sont pas là. Le fait de se masturber pour l'enfant est normal quand il s'endort le soir. C'est se refermer sur lui-même et refaire une sécurité existentielle, retrouver une sécurité existentielle. Lorsqu'un enfant se masturbe visiblement par les adultes qui ne le guettent pas pour savoir s'il le fait, s'il se masturbe en classe par exemple, c'est un enfant qui pose la question de la sexualité qui ne lui a pas été expliquée par un adulte de son sexe. Car il est très important que le rôle du plaisir auto-érotique soit expliqué à une fille par une femme qui lui dit « c'est en effet un lieu de notre corps qui est très sensible et très agréable ». Et puis, je suis sûre que ce qui est agréable, c'est toutes les histoires que tu te racontes pendant que tu le fais. Ce n'est pas mal du tout, mais tu verras comme ça sera beaucoup plus agréable quand tu auras un mari.
Sur quoi repose cette intention de Françoise Dolto, cette façon qu'elle a de résoudre ce qui semble un problème à ceux qui en font un tabou, Sylviane Jampineau?
Françoise Dolto dit d'elle-même, lorsqu'elle était enfant, qu'elle ne s'ennuyait jamais, mais qu'elle avait toujours besoin de comprendre ce qui l'entourait. Face à des manifestations d'enfants, que ce soit la masturbation, que ce soit des manifestations comportementales énigmatiques, voire des pathologies très très lourdes, elle ne quittait jamais cette position qui consiste à chercher à en comprendre le sens caché. Car pour elle, vous l'avez dit en début de cette émission, tout est langage. On voit là qu'elle aborde la masturbation dans ce même cadre.
Pour Françoise Dolto, tout est langage. On est dans la parole quasiment depuis la vie fœtale.
Oui.
D'ailleurs, il me semble que Catherine Dolto prolonge en cela l'héritage de sa mère quand elle conçoit l'aptonomie, qui est une façon de communiquer également avec l'enfant avant sa naissance, d'instaurer une forme de dialogue déjà, un langage. Alors c'est le langage des signes, mais pourquoi pas, on est là encore dans un langage. En même temps, comment défendre, Sylviane Jampineau, juste pour finir ça, comment défendre Françoise Dolto de l'accusation, et je mets là le mot aussi entre guillemets, qui pourrait lui être faite, eh bien de justifier par exemple, au nom du fait qu'en somme, tout est important, tout est décisif, en particulier avant 3 ans, de justifier finalement qu'une politique de prévention de la délinquance se soucie des comportements d'enfants avant 3 ans. Qu'est-ce qui permet de faire échapper Dolto finalement à ce déterminisme politiquement tout à fait douteux qui consiste à identifier par exemple les primo-délinquants ou les délinquants juvéniles dès avant 3 ans? Ce sont des déclarations qui reviennent de façon lancinante et qui, pour certaines d'ailleurs, croient ou prétendent s'appuyer sur la parole de Françoise Dolto.
Ah, mais alors là, c'est très simple. C'est que pour Françoise Dolto, il n'est jamais trop tard pour relancer la dynamique du désir et la vitalité psychique d'un enfant, même si elle a été entravée. Si la souffrance est trop grande, Françoise Dolto ne renonçait pas devant certaines pathologies. Elle considérait que la parole peut guérir. Elle avait cette croyance-là.
Oui, mais elle
aussi
affirmait quand même que tout se joue avant 3 ans.
Ah non, Françoise Dolto n'a jamais dit ça.
Autant pour moi. Vous voyez, mais voilà le modèle d'un lieu commun, alors là,
oui,
repris sans vergogne par celui qui vous interroge. Donc,
non,
elle n'a jamais dit ça. Pourtant, on croit qu'elle le dit.
Mais parce que, d'abord, le tout se joue avant. C'est la psychologie américaine. Et c'est à travers cette phrase que s'infiltre le besoin qu'ont les humains vouloir enfermer l'avenir, le contenir, le prédire, en se servant des déterminismes, quels qu'ils soient. On se sert aussi bien des déterminismes biologiques et génétiques actuellement pour justifier cette chasse, cette traque des enfants et des soi-disant troubles précoces prédicteurs de délinquance. On va se servir des déterminismes sociologiques avec cette idée qu'il y aurait des classes sociales plus pathogènes que d'autres. C'est une autre forme de pensée déterminisme. Et le tout se joue avant. Alors, tantôt c'est 6 ans, tantôt c'est 3 ans. Vous savez qu'aujourd'hui, on a tendance à dire que même pendant la grossesse, il faut faire des dépistages. Là, on est hors champ de ce que Françoise Dolto a apporté. Françoise Dolto, ce qu'elle défendait, c'était qu'on soit attentif à l'intelligence humaine, sensible de l'enfant qui a besoin que lui soit parlé son statut, où il vit, avec qui il est, pourquoi. Et que ça, en soi, c'est une démarche de prévention, car le fait de parler à un enfant lui permet de construire une représentation mentale, ce sentiment d'une continuité d'exister pour lui-même et pour les autres, et dans une société. Mais ça n'a rien à voir avec l'idée
l'enfermement
que tout
préalable
se jouerait
dans une représentation de lui-même qui serait celle d'un jeune délinquant. En fond.
Mais absolument. C'est même étonnant de faire un lien entre ces pensées qui nous arrivent d'outre-Atlantique et qui sont très largement relayées aujourd'hui par des gens en France qui se servent du discours scientifique d'ailleurs pour étayer ces soi-disant vérités. Et une Françoise Dolto qui n'a cessé de dire que rien n'est jamais joué pour un être humain, car il est en perpétuelle transformation, remaniement, pour peu qu'il ait une rencontre avec une parole symbolisante et humanisante.
Je donne des coups de pied dans une petite boîte en fer. Dans ma tête, y a rien à faire. Je suis mal en campagne. Mal en ville, peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo, maman comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo.
Merci Sylviane Giampino d'être venue nous voir. Alors la bibliographie des livres de Françoise Dolto est trop longue pour être donnée à l'antenne. Je vous renvoie à notre site internet où vous la trouverez sous sa forme quasi exhaustive. Sylviane Giampino, en revanche, je signale que vous avez coécrit avec Catherine Vidal et une préface d'Axel Kahn, Nos enfants sous haute surveillance, justement, ça tombe bien, évaluation, dépistage et médicaments, c'est chez Albin Michel et je le recommande chaleureusement.
Peut-être un petit peu trop fragile. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, je suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo. Moi je voulais les sorties de port à la voile, la nuit parée les étoiles. Moi, les chevaux, le revolver et le chapeau clown, la belle Peggy du saloon. J'suis mal en homme dur et mal en petit cœur, peut-être un petit peu trop rêveur. Allô maman, bobo. Maman, comment tu m'as fait, j'suis pas beau. Allô maman, bobo. Allô maman, bobo.
Se remet de nos douleurs. Il est 10h50 sur France Culture et on retrouve avec joie, comme tous les jours, le journal des nouveaux chemins de la connaissance et Adèle Van Rett. Bonjour Adèle.
Bonjour Raphaël.
Spinoza aujourd'hui, ça tombe bien.
Oui, on change de sujet, on s'éloigne de l'enfance pour se plonger dans la correspondance, celle de Spinoza donc, puisqu'on trouve en ce moment, en Garnier Flammarion, une nouvelle édition de la correspondance de Spinoza, nouvelle édition établie par le philosophe Maxime Rover, qui est avec nous aujourd'hui. Bonjour Maxime Rover.
Bonjour Adèle.
Pour comprendre l'intérêt de cette correspondance de Spinoza, d'ailleurs de toute correspondance en général, on peut se poser une question, à savoir comment la lire, c'est-à-dire qu'est-ce qu'on peut attendre dans cette correspondance, qu'est-ce qu'on peut y chercher. Et en l'occurrence, en ce qui concerne cette correspondance-là, donc de Spinoza, il y a deux écoles. Il y a ceux qui pensent que ces lettres ne sont que secondaires par rapport au système spinoziste, que l'essentiel de la pensée de Spinoza ne s'y trouve pas. Et il y a ceux qui, comme vous, si je vous ai bien compris, si j'ai bien compris votre présentation, la préface à cette traduction, ceux donc qui, comme vous, ils voient dans ces lettres l'expression d'une méthode philosophique spécifique, qui est radicalement différente de celle que Spinoza emploie dans ses traités.
Oui, alors ce qui est important quand on lit des lettres philosophiques, c'est justement de prendre conscience que lorsqu'on écrit une lettre à quelqu'un, on peut le faire de mille et une manières. Et au XVIIe siècle, échanger des lettres, c'est ce que font un certain nombre d'auteurs qui se conçoivent comme philosophes au sens de philosophie naturelle, c'est-à-dire ceux qui embrassent aussi les sciences. Et à travers toute l'Europe, des gens s'envoient les nouvelles scientifiques, je dirais les plus récentes. Et c'est de cette manière que, pour le coup, dans une émission qui s'appelle « Les nouveaux chemins de la connaissance », s'est inventé quelque chose au XVIIe siècle qui a précisément défini de nouveaux chemins de connaissance.
Là, vous parlez de la République des lettres, notamment ?
C'est exactement ce qui s'est constitué autour des correspondances, c'est-à-dire la République des lettres, ça désigne un ensemble de personnes réparties à travers l'Europe qui s'échangent des lettres pour se donner des nouvelles, des expériences, des théories, des publications, des traductions qui sortent autour d'eux et dont ils entendent parler par d'autres correspondants. Donc Spinoza se retrouve bientôt inclus dans cette République des lettres et donc y participe de plein droit. Le principal interlocuteur de Spinoza dans les lettres s'appelle Oldenbourg, Henry Oldenbourg, c'est le secrétaire de la Royal Society, donc c'est l'un des acteurs les plus importants de cette République, et c'est avec lui que Spinoza, je dirais, mobilise l'archétype de ce qu'est une correspondance au XVIIe, c'est-à-dire, effectivement, à la fois des méditations, je dirais, strictement philosophiques, des démonstrations sur l'existence de Dieu, des considérations sur l'union de l'âme et le corps, etc., et puis des nouvelles très ponctuelles, parce que la guerre éclate entre l'Angleterre et les Pays-Bas, alors du coup l'un et l'autre échangent des vues, donc il y a cet aspect-là. Par conséquent, éditer la correspondance, c'est refléter la vie d'un philosophe, c'est-à-dire dans ce que ça comporte à la fois de trivial, de simplement humain au quotidien avec ses amis qui l'entourent, et puis aussi de profondément philosophique dans des débats d'idées qui s'engagent avec des hommes qu'il connaît ou pas.
Mais là, ce que vous dites, c'est que l'intérêt qu'on peut trouver à la lecture de cette correspondance réside dans le fait que dans ces lettres, on découvre un Spinoza qui serait, disons, aussi, philosophe certes, mais aussi humain. On découvrirait le Spinoza qui ne serait pas seulement philosophe. Or, il me semble que ce que vous dites aussi par ailleurs dans votre présentation, c'est que, y compris d'un point de vue philosophique, cette correspondance a un intérêt et que la façon dont on découvre le Spinoza philosophe est différente que celle qu'on a qui nous est donnée à voir dans les traités proprement philosophiques.
Voilà. En fait, si jusqu'ici la correspondance n'avait pas été retraduite depuis 1924, c'est qu'on considère qu'on n'apprend rien quand on connaît Spinoza en lisant la correspondance, de sorte que les textes réunis par Apune sous le titre des lettres seraient au fond secondaires. En fait, en retraduisant ces textes, je me suis aperçu que Spinoza, au fond, convoyait l'idée que la philosophie ne consiste pas dans la construction d'un système philosophique et que son idée, lorsqu'il s'adresse à ses correspondants, n'est pas du tout de leur indiquer, un chemin qui mène à l'éthique ou au grand livre que lui-même n'a pas souhaité publier. Ce qu'il fait, c'est autre chose, c'est entrer véritablement en dialogue avec des gens dont il n'interroge pas, je dirais, l'ensemble de la représentation du monde, qu'il accepte tel qu'il la lui apporte. Ce qui l'intéresse, lui, c'est simplement d'agir à l'intérieur de la représentation que chacun a pour l'affiner, c'est-à-dire pour interroger les points de blocage, pour faire varier les points de vue, pour essayer d'apporter, tant soit peu de cohérence dans un univers qui est singulier à chaque fois.
Est-ce que ça veut dire que dans cette correspondance, on aurait une pensée qui s'exprimerait peut-être ou qui accorderait plus d'importance à la dimension pratique de la pensée?
Tout à fait. L'idée, c'est de repousser la notion de vérité philosophique pour mettre en avant la notion de compréhension. Alors, ça n'a l'air de rien. On a l'impression que finalement, on va arriver au même point. En fait, dans la pratique, justement, ça détermine une méthode de dialogue et de réflexion qui est tout à fait différente. Par exemple, dans une des lettres, alors l'échange est le suivant, dans la lettre 67, un ancien élève de Spinoza lui écrit une lettre absolument enflammée parce que ce jeune homme s'est converti au catholicisme et donc envoie une lettre à son ancien professeur pour lui dire à quel point il se trompe. Et notamment, lui dit « Moi, je suis certain d'avoir trouvé la vraie religion, ou la meilleure religion. Comment vous savez-vous que vous avez la meilleure philosophie ?» Et Spinoza répond « Je ne sais pas si j'ai la meilleure philosophie, mais, et jusqu'à présent, dans toutes les langues et dans toutes les traductions qui existent et qui sont disponibles jusqu'à aujourd'hui, on traduisait « Je ne sais pas si j'ai la philosophie la meilleure, mais je sais que c'est la vraie que je comprends. » C'est-à-dire, au fond, moi, Spinoza, je sais que j'ai la vérité.
Or, vous traduisez, je ne prétends pas avoir trouvé la meilleure philosophie, je sais seulement qu'est vraie celle que je comprends. Et donc la philosophie que Spinoza détermine comme étant vraie est celle qu'il comprend. C'est-à-dire que le critère de la vérité est la compréhension, qu'il n'y a pas une vérité absolue. Est-ce que je vous comprends bien?
Tout à fait.
Donc, très bien, merci beaucoup.
L'idée, c'est que Spinoza ne défend pas sa philosophie, il défend aux yeux même de son interlocuteur l'importance de ce qu'est comprendre.
C'est très clair, merci beaucoup Maxime Revat. Je renvoie l'auditeur à la présentation et la traduction que vous proposez donc, de cette correspondance de Spinoza qu'on trouve en ce moment en Garnier Flammarion.
C'est un crève-cœur, 8 minutes sur Spinoza. On va arranger ça. Adèle, vous vouliez nous parler d'autre chose rapidement.
Oui, alors difficile de ne pas avoir entendu parler de Camus ce mois-ci, puisqu'on célèbre le 50e anniversaire de sa mort. Alors, puisque nous sommes encore en janvier, profitons-en. Et donc, je vous signale la parution de cette belle biographie de Camus, qui s'appelle sobrement Camus, et qui est d'autant plus intéressante quand on connaît l'auteur, qui est Virgile Tanaz, qui est un auteur, un romancier d'origine roumaine, qui est auteur d'une quinzaine de romans en français, qui est aussi dramaturge et metteur en scène. Et donc, sans surprise, ce qui est très intéressant dans cette biographie, c'est tout le développement développement qu'il fait autour des œuvres de théâtre de Camus. Voilà, donc ça s'appelle Camus, c'est par Virgile Tanaz, et on trouve ça en folio biographie.
Et c'est noté, c'est la fin pour aujourd'hui des Nouveaux Chemins de la Connaissance. Plein de regrets, hein. Dolto et la mort, on aurait dû en parler, hein. La mort de celle qui avait fait graver N'ayez pas peur sur sa tombe. La correspondance de Spinoza, les lettres sur le mal, les lettres sur les fantômes. Enfin, il y avait beaucoup de choses à dire, évidemment. Les lettres aussi sur le salpêtre. On en parlera encore au Nouveaux Chemins de la Connaissance. On se retrouve demain, comme tous les jours, de 10h à 11h pour la suite et la fin de cette semaine sur l'enfance, en compagnie, c'est moins bien que Spinoza, de Jean-Jacques Rousseau. On se retrouve également sur Internet à toute heure du jour et de la nuit où vous attendent téléchargement, écoute en ligne et bibliographie. Heures 59 sur France Culture dans un instant. Question d'époque.